notre chambre haute. C'est très précis, ça. Hein? Avons-nous notre chambre haute? Alors, pour introduire cette prédication, on va lire simplement quelques versets, et puis, durant toute la prédication, vous allez surtout entendre des versets bibliques, des pensées qui seront données par le thème, mais nous lirons beaucoup de versets bibliques, car comme le dit l'apôtre Paul, prêche l'évangile, prêche la bonne nouvelle, prêche la parole. Et je crois que c'est vrai qu'on peut laisser le Saint-Esprit nous conduire et recevoir son enseignement. Mais je crois que l'enseignement passe aussi, et je pense que nous serons tous d'accord, passe par la parole. Dieu nous a laissé sa parole pour la lire, pour la méditer, pour la vivre. Et c'est plus on vit la parole, plus on lit la parole de Dieu, plus on va vivre la parole de Dieu, et plus nous verrons la gloire de Dieu se manifester, individuellement, familialement, mais collectivement. Alors, on va lire dans le deuxième livre des Rois, si vous le voulez bien, pour commencer, à partir du verset 8e. Je pense que vous avez trouvé 4. Deuxième livre des Rois, chapitre 4, verset 8e. Un jour, Élisée passait par Sumen. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Amen. Ça, c'est la première pensée qui nous parle de la chambre haute, et que cette chambre haute qui a été demandée par cette femme de distinction à son mari de la construire. Et vous savez que dans ce temps-là, et ça se voit encore aujourd'hui dans les pays orientaux, les maisons sont faites souvent avec un toit plat, et la chambre haute était située donc au-dessus de ce toit plat, et ainsi ça faisait une pièce en plus où les personnes pouvaient se retirer, où les gens, si vous voulez, prenaient des temps individuels. Et là, il nous est dit que cette femme avait demandé de faire une chambre haute pour que le saint homme, et ça il faut bien le souligner, le saint homme puisse, quand il viendrait, quand il s'arrêterait, quand il passerait des moments, on va dire entre guillemets, en famille, puisqu'il était là de venir d'une manière un petit peu assidue, alors il pourrait se retirer dans cette chambre haute, et le saint homme de Dieu, eh bien, pourrait vivre aussi une rencontre avec son Dieu, puisqu'il était saint homme de Dieu. Mais je voudrais, avant de continuer sur cette pensée, vous lire ce verset que vous connaissez tous dans Matthieu chapitre 6 et verset 6e, où il est dit ceci. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Alléluia. Ainsi, par cette parole du Seigneur Jésus, nous voyons que nous sommes les uns et les autres invités, non peut-être pas d'avoir une chambre haute sur notre toit, ce qui serait, ou le toit du bâtiment, ce qui serait impossible, mais de rentrer dans notre chambre personnelle. Et si j'ajoute haute, c'est pour que nous nous élevions dans la présence de Dieu lorsque nous le rencontrons dans notre chambre. Le Seigneur parle dans son enseignement de chambre, mais je pense aussi que nous pouvons rencontrer le Seigneur notre Dieu dans différents autres endroits. Et nous pouvons, dans ces endroits, avoir une communion réelle et profonde, parce qu'il est vrai aussi que nous sommes, tout comme le prophète Élisée, nous sommes des enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir cette communication avec le Seigneur afin de pouvoir progresser dans notre vie spirituelle, de grandir dans la foi, de grandir dans la sagesse divine, afin de pouvoir être entre les mains du Seigneur un outil agréable et un outil utile. Ne soyons pas avec un ombrage lorsqu'on entend dire « outil », un outil, c'est-à-dire que le Seigneur va nous utiliser pour son œuvre, pour la croissance de l'Église, pour le témoignage, pour que nous puissions, par sa grâce et par l'action de son esprit, produire du fruit à la gloire de son nom. Ce que je voudrais souligner également, en revenant au premier texte, et c'est à partir de là, nous allons essayer de faire ce que parfois on appelle une accommodation spirituelle et divine. Il y avait dans la chambre haute que cette dame et son mari ont préparé. Il y avait quand même quatre éléments qui sont importants sur lesquels je voudrais m'arrêter. Il nous est dit que dans cette pièce, il a été placé un lit, une table, un siège, on va dire pour nous une chaise, ou un tabouret si vous voulez, et un chandelier. Et je voudrais très rapidement, au travers de ces éléments qui sont posés dans cette pièce, en tirer une éducation spirituelle. Et là, le premier élément, eh bien, vous l'avez compris, c'est le lit. En fait, le lit nous parle de repos, et écoutez bien, mais pas de paresse. D'accord ? Le lit parle de repos, mais pas de paresse. Et je crois que c'est très important de se mettre ça un petit peu dans son esprit et peut-être même dans son cœur, parce que nous savons effectivement que si nous avons besoin les uns et les autres, et Dieu a parlé en ce sens de prendre un temps de repos, Jésus aussi l'a enseigné, quand vous lisez dans Marc chapitre 6, verset 31, il dira « Venez à moi, nous allons nous retirer dans un endroit isolé pour être tranquille. Il nous faut prendre un peu de repos. » Marc 6, 31. Dans une traduction autre que second. Il dit il faut prendre un peu de repos. Un peu de repos physique. Parce que le travail des apôtres pour prêcher l'Évangile et d'aller de lieu en lieu, suivant aussi le Seigneur Jésus pour recevoir enseignement et aussi voir sa puissance ou la puissance de Dieu se manifester, il était bon que de temps en temps, ils prennent du repos, ce qui veut dire que le repos physique est nécessaire. Vous êtes tous d'accord ? Vous aurez le droit de faire la sieste après-midi pour prendre un peu de repos. Mais il y a un danger pour le chrétien, c'est le repos spirituel, c'est-à-dire lever le pied, c'est-à-dire « Oh, aujourd'hui, il pleut, je reste à la maison ». Ce serait possible, surtout s'il y a de gros ouragans, il ne faut pas manquer de sagesse. Vous me comprenez ? Mais le chrétien, dans sa vie spirituelle, permettez-moi de vous dire qu'il n'est jamais au repos. Il doit toujours être en action. On peut prendre du repos physique, mais on ne peut pas prendre du repos spirituel parce qu'à partir de ce moment-là, cela devient de la paresse spirituelle. Voilà, je me laisse vivre. Je suis passé par les eaux du baptême, je suis sauvé. Excusez-moi de dire, je ne sais pas quel sera le thème, j'ai entendu ça tout à l'heure, mais le chrétien doit vivre pour gagner la vie éternelle. Je ne veux pas empiéter, mais je dirais, le chrétien, parce qu'il est baptisé, n'est quand même pas assuré de rentrer dans le ciel. Il faut qu'il demeure fidèle, fervent, courageux, jusqu'au bout de la fin de sa vie, et il rentrera dans sa fidélité dans la vie éternelle. Sois fidèle jusqu'à la mort et tu recevras la couronne de la vie éternelle. Si le chrétien s'arrête sur son chemin, se reposant sur les œuvres qu'il a accomplies, etc., il n'est plus dans le repos dans un repos physique, mais il rentre dans un repos spirituel qui devient dangereux et il peut perdre son salut. Écoutez ce que dit la parole de Dieu à ce sujet. Donc voilà déjà un premier texte qui se trouve dans le Proverbe au chapitre 19 et verset 15. Il est dit ceci, traduction Darby, « La paresse fait tomber dans un profond sommeil et l'âme négligente aura faim. » Le repos spirituel, plutôt la paresse spirituelle, où, eh bien, nous fait tomber dans un sommeil. Et vous savez ce que dit la parole de Dieu dans le Nouveau Testament ? Réveille-toi, toi qui dors ! Est-ce que nous dormons ? Est-ce que nous sommes tombés dans une paresse ? Est-ce que nous nous suffisons et nous sommes heureux d'être tous là ce matin ? Que Dieu bénisse ceux qui n'ont pas pu venir, mais nous sommes heureux d'être là ce matin, mais le Seigneur nous rappelle qu'il faut être actif, non pas uniquement le dimanche matin, mais tous les jours de notre vie, et autant plus dans les temps que nous vivons, afin que notre foi ne se refroidisse pas. Parce que vous savez comme moi qu'il est écrit dans la Bible que dans les derniers temps, la foi de beaucoup se refroidira. Or, le Seigneur nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais qu'est-il écrit ? Mais ils ne prennent pas garde à ce qui était dit. Prenons garde à l'enseignement du Seigneur. Nous ne pouvons pas être, dans le sens spirituel, des gens paresseux, mais nous devons être des gens actifs, courageux, malgré les temps que nous vivons. Avant, il y avait des temps difficiles, mais les chrétiens étaient toujours présents. Oui, non. Bien sûr, des fois, on entend, ce n'est pas les mêmes coutumes, ce n'est pas les mêmes... Oui, mais la fidélité à Dieu doit être toujours la même. Et il est écrit dans Romains, au chapitre 12, versets 11 et 12, ce texte que j'ai retrouvé aussi dans Darby. « Quant à l'activité, dira-t-il Paul aux Romains, écoutez bien, c'est pour cela que je vous parlais des temps reculés, « Quant à l'activité, pas paresseux, dira-t-il aux Romains. » Pas paresseux. Et il ajoute, fervent en esprit, servant le Seigneur, vous réjouissant dans l'espérance, patient dans la tribulation, persévérant dans la prière. Alléluia. Telle est aujourd'hui l'Église du 20e siècle. Si je ne me trompe pas de siècle. 21e. Merci de me vieillir, frère. Merci. Je me croyais jeune. Merci. Vous avez bien entendu le verset. Ce verset, c'est pour l'Église d'aujourd'hui. Hein. Oui, amen. Seigneur, donne-nous d'être semblables à l'Église de Rome. C'est dans la présence et dans notre relation avec le Seigneur. C'est dans le combat, dans la prière, c'est dans la lecture, l'écoute de la parole de Dieu que nous serons renouvelés à tous égards et que nous serons conquérants individuellement, familialement et collectivement. Parce que Dieu promet la victoire à ses enfants. Victoire éternelle, mais victoire dans les temps que nous passons, calme ou difficile. Il est toujours là. Mais il faut faire notre part, ne pas être des paresseux. Mais des courageux, ça fait une sacrée différence. Il est écrit dans Ésaïe au chapitre 40, verset 29, français courant, « Il redonne des forces à celui qui faiblit. Il remplit de vigueur celui qui n'en peut plus. » Il y a quelqu'un qui n'en peut plus ce matin. Que le Seigneur vous renouvelle dans votre vigueur, dans vos actions, dans vos pensées, dans vos sentiments de fraternité, que Dieu nous renouvelle et qu'il nous donne la vigueur du Saint-Esprit afin d'être fort en toutes circonstances et en toutes situations. Le repos dans le Seigneur, une vie qui lui est consacrée, courageux, eh bien, il est dit ceci dans Jérémie, chapitre 29, verset 11. « Je connais, dit l'Éternel, moi, les desseins que je forme à votre sujet. Vous savez que Dieu a des desseins pour vous, comme pour moi. Et que sont-ils ? Desseins de paix, de la paix divine, et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Et l'espérance que Dieu nous a donnée, cet avenir, c'est la vie éternelle. Mais il faut la conquérir dans notre fidélité avec courage. Ne devenons pas des chrétiens paresseux. Ne devenons pas des chrétiens qui, par les circonstances, pourraient rester assis sur leur sofa pour regarder ou entendre des prédications. Ça peut être bon, mais souvent celui qui prêche, ça peut être mauvais, celui qu'on écoute. Enfin, la tendance que l'on écoute. Écoutons la parole de Dieu. Et soyons fidèles à sa parole. Soyons autant que cela se peut fidèles à notre Église et marchons honnêtement comme en plein jour pour être agréables à Dieu. Amen. Le deuxième, je regarde aussi un peu le temps, il nous est dit ceci, la table. La table nous parle de quoi ? Je pourrais dire de convivialité, mais elle nous parle de prendre sa nourriture. C'est ce que vous allez faire, non, à midi, je suppose. Puis c'est bien, des fois on l'oublie, ou alors quand on a des visiteurs là, sur les coups de midi, on va dire, eh bien, passons à table. Vous dites pas ça, vous ? Ou c'est le moment de passer à table ? Est-ce que nous prenons le moment de passer à table ? Je ne parle pas de midi, là. Là, je parle, est-ce que nous prenons le temps de passer à table pour manger la nourriture que le Seigneur nous donne au travers de sa parole ? Non, si. Logiquement, nous mangeons trois fois par jour, vous le savez. Matin, midi et soir. Pour satisfaire notre corps. C'est logique. Bon, il y en a qui font sauter le repas du soir. Mais alors, quand ils sautent le repas du soir, des fois, dans la nuit, vous entendez l'estomac qui gargouille. Allez, mange, tu m'empêches de dormir. Et alors, si nous prenons tant de soins pour notre corps, ne pensez-vous pas, frères et sœurs, aimés du Seigneur, aimés des frères et sœurs, ne pensez-vous pas qu'il faille vous nourrir de la parole de Dieu ? Le matin et le soir, quand vous voulez. Vous savez, il y a des fois des choses qui sont un petit peu pénibles. Bon, là, je prends ça comme exemple. Donc, j'ai été opéré là, on va le dire, de la cataracte. Alors, je suis sous traitement. Mais alors, il n'y a rien de plus pénible, parce qu'il est long, ce traitement. Et alors, il ne faut pas oublier, surtout, matin, midi, soir. Pour un, l'autre, c'est matin et soir. L'autre, c'est trois fois par jour. Oui, mais quand on ne sait pas du tout, ça devient astreignant. Mais pour la parole de Dieu, ça ne doit pas être astreignant de lire la Bible. Ça doit être une joie. Elle nourrit mon âme. Elle nourrit mon être intérieur. Elle me fait du bien, elle me vivifie, elle me fortifie. J'ai besoin de la parole, j'ai besoin de la lire, j'ai besoin de l'entendre. Esprit, parle-moi au travers, en dedans de mon cœur, mais au travers de tes serviteurs. Enseigne-moi, Seigneur. Et permettez-moi de dire, et j'espère que je serai compris de tous, fais-moi grossir dans la foi. Pas de régime pour grandir dans la foi. Alléluia. J'espère que je ne vous coupe pas l'appétit. Hein. La parole de Dieu, c'est une bonne nourriture. Il est dit ceci, que le Seigneur lui aimait de partager ses temps aussi avec le Seigneur, avec ses apôtres. Il savait prendre le temps, non seulement de se reposer, mais il prenait aussi le temps de nourrir son corps. Et il le faisait avec les disciples. Regardez dans Matthieu, chapitre 26, verset 20-21. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Et pendant qu'il mangeait, il dit, « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Donc quand le Seigneur parle à ses disciples, il est heureux de manger avec eux, de partager la nourriture, on va dire ce temps convivial, mais en même temps, le Seigneur va leur révéler ce qui va se passer. Oui ou non ? Vous avez entendu ce que j'ai lu ? Et le Seigneur leur dit, n'est-ce pas, l'un de vous me livrera. C'est une révélation. Et mes amis, qu'est-ce que veut Dieu au travers de la parole que nous lisons ? que vous lisez, que nous devons chérir dans notre cœur et lire tous les jours, le matin, le soir, trouver un temps de rentrer dans sa présence pour lire la parole. Parce que la parole, elle fortifie, elle vivifie aussi, comme le Saint-Esprit, mais elle nous révèle les choses. Elle nous parle, elle nous dit. Et parfois, elle est capable de nous dire en lisant un texte ou un exemple biblique, mais avec le Saint-Esprit, lui, là, tu vois, tu fais mal. C'est pas bien. Ou elle va nous révéler une parole, une promesse qui va s'accomplir. Parce que là, quand Jésus dit « l'un de vous me livrera », ça ne s'est pas fait dans l'heure suivante. Il y a eu encore un temps qui se passe. Alors, il faut savoir trouver au travers de la parole de Dieu les mots, les phrases que le Seigneur va nous révéler pour nous encourager, pour nous amener à vivre une vie qui l'honore et qui le glorifie. Et qui nous avertit aussi du danger que nous pourrions rencontrer et qui aussi nous fortifie. Parce que quand on prend la nourriture pour notre corps, on se fortifie, on se fait du bien. Notre corps a besoin pour différentes, on va dire, pour avoir la santé, eh bien, de se nourrir. Vous savez que si je ne me trompe pas de mémoire, quelqu'un peut rester 40 jours sans manger, mais au bout de 40 jours, il est, excusez le terme que je vais prendre, il est liquidé, parce que tout est bloqué dans son corps au bout de 40 jours. Par contre, il pourra tenir encore pendant ces 40 jours, à condition qu'il boive de l'eau. Parce que s'il ne boit pas d'eau, déjà, la première des choses qui va se passer, c'est que les reins se bloquent. Et on rentre dans des difficultés, ainsi, physiquement parlant. Alors, le chrétien, dans le sens spirituel, ne peut pas se passer de la parole de Dieu pour grandir dans la foi, pour être aiguillé dans le bon chemin. Et il a aussi besoin de l'assistance du Saint-Esprit, qui est une source d'eau pour être sans cesse vivifié et renouvelé. Et ce que je viens de dire, eh bien, je vais l'attester avec le Seigneur Jésus qui regardait et restait 40 jours sans manger. Mais au bout de 40 jours, le temps était arrivé et là, il a été nourri. Et il a été nourri dans une situation un petit peu particulière parce qu'il est écrit « Au bout de 40 jours, l'ennemi est venu pour tenter le Seigneur ». Et comment Jésus est-il sorti de cette attaque en trois fois de la part de Satan ? C'est que chaque fois, à chacune de ces attaques, Jésus a répondu « Il est aussi écrit ». Il est aussi, vous voulez résister à toute pensée fausse qui contrarie la parole de Dieu, à toute attaque, à toute tentation de l'adversaire, lisez la parole de Dieu et vous pourrez dire à celui qui vient intérieurement vous attaquer dans vos idées, dans vos pensées, peut-être à vous faire douter parce que vous êtes dans la maladie ou dans la souffrance, quelle qu'elle soit, vous pourrez lui dire, mais il est aussi écrit. Et parce qu'il est écrit et que la parole de Dieu est vivante, je ne crains rien, mais je puis tout par celui qui me fortifie. Voilà ce que nous enseigne la parole de Dieu. Alléluia. Il nous est dit que dans Ésaïe chapitre 40, verset 29, français courant, il redonne des forces à celui qui faiblit, il remplit de vigueur celui... non, mais là, je voulais déjà citer celui-là. Je me suis trompé. C'est autrement. Voilà. C'est pas grave. Jean 6, 58. C'est ici, en parlant de lui-même, Jésus dira, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Et quand Jésus dit, celui qui mange ce pain, il parle de la parole de Dieu. De la parole qu'il va transmettre. Et qu'il nous transmet, aujourd'hui elle nous est transmise par le Saint-Esprit. Vous savez que nous avons, on peut dire merci Seigneur, parce que quand on lit un petit peu l'histoire, on s'aperçoit que les hommes, depuis tous les temps, ont essayé de détruire la parole de Dieu, de faire brûler la Bible. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça prendrait trop de temps. On a fait des tas de monceaux de Bible, on y a mis le feu, on voulait voir tout ça disparaître. On ne voulait pas connaître la Bible. Eh bien la Bible, par la grâce de Dieu, a traversé les temps, a traversé les siècles, elle est arrivée jusqu'à nous. Parce que Dieu veille sur sa parole. afin que nous puissions l'attendre, afin qu'il puisse l'exécuter, afin qu'il puisse nous bénir, nous affermir en lisant la parole. Nous devons nous nourrir, frères et sœurs, de la parole de Dieu. La lire. Alléluia. Pour être chaque jour vivifié et fortifié. Nourrir notre âme, nourrir notre cœur, nourrir nos pensées des paroles divines et vivantes, de les vivre, mais aussi de les communiquer avec fidélité pour rester, nous l'avons dit, ferme et fort dans la foi. Et pourquoi rester fort et ferme dans la foi? C'est pour rester fort et ferme dans la foi, dans l'attente de son retour. Tout cela nous est demandé de persévérer pour être prêt pour le jour où il reviendra. Vous savez ce que dit Amos dans un de ses chapitres, il dira « Prépare-toi à rencontrer ton Dieu ». Mais comment se préparer à rencontrer Dieu, sinon en nous nourrissant de la parole de Dieu, sinon en nous laissant conduire par le Saint-Esprit, guider, enseigner par le Saint-Esprit, afin de parfaire notre vie de chrétien sur cette terre, afin de porter du fruit autour de nous, afin de dire, Seigneur, je veux rester mes regards fixés sur toi, parce que c'est par toi et par ta parole que je pourrai atteindre la vie éternelle. Alléluia. Je ne peux pas me reposer sur ce que j'ai vécu. Mes yeux ne sont pas sur le passé. Quand je regarde personnellement le passé, c'est pour dire merci à Dieu de tout ce qu'il m'a accordé. Mais mes yeux sont fixés sur l'avenir. Et tant que cet avenir est devant moi, tant que Dieu me prête vie, je dis au Seigneur dans mes prières, donne-moi d'être un chrétien fidèle, un serviteur fidèle jusqu'au bout, Seigneur. Et quand parfois il peut arriver que l'un ou l'autre se refroidissent, alors le Seigneur vient me dire, « Et là, ressaisis-toi. C'est pas ça que je t'ai appelé. Ressaisis-toi. » Et le Seigneur est celui qui fortifie. Alléluia. Et qui enrichit quand on est sincère et fidèle avec lui. Alléluia. Alors, je voudrais vous lire encore ce verset avant de passer à la chaise. 1 Corinthiens chapitre 10 et versets 11 et 12 dans Parole vivante. Pour ces événements, Ces événements qui ont touché le peuple d'Israël, Paul le rappelle aux Corinthiens, tous ces événements, je le répète, ont une portée prophétique. Ces malheurs leur sont arrivés pour nous servir d'avertissement et pour illustrer la manière dont Dieu agit. Ils ont été consignés par écrit pour que nous en tirions instruction. Nous qui vivons, nous qui vivons dans la période finale de l'histoire vers laquelle convergent les richesses de tous les temps. C'est pourquoi, si quelqu'un se croit fort, il a particulièrement besoin de veiller à ne pas tomber dans le péché. Les choses que nous lisons qui concernent l'Ancien Testament et notamment le peuple d'Israël, elles nous ont été révélées aujourd'hui pour que nous ne fassions pas les mêmes erreurs. Et dans les temps qu'ils ont vécu, qui ont été parfois certainement des temps difficiles, il nous est dit que dans ces temps-là, eh bien, le Seigneur est intervenu et dans laquelle aujourd'hui nous devons vivre parce que cela précède la période finale de l'histoire. J'ai une nouvelle. Vous voulez la connaître? Ah, ça fait plaisir. Il vient bientôt. Oh, ils sont tous contents. Oh, je ne vais pas pouvoir me marier. Alléluia, moins de soucis. Amen. Ah, Seigneur, j'avais trouvé la perle rare. Eh bien, ce n'est pas grave, il y en a une meilleure qui arrive. Amen, amen. Ne vous attachez pas aux choses terrestres. Attachez-vous à la richesse céleste. Les choses terrestres sont passagères. La promesse citée, elle, est éternelle. Et ses promesses sont éternelles. Vivons en sa présence, réjouissons-nous, mangeons. J'avance vite fait, J'ai encore un peu de temps, s'il te plaît. Oui. La chaise nous parle de réflexion, de l'étude biblique, prendre le temps d'être à l'écoute du Seigneur qui veut nous enseigner au travers, eh bien, de quoi ? De sa parole. Nous devons nous nourrir de celle-ci et nous devons nous encourager à vivre en cela. Ainsi, dans le psaume, chapitre 25, versets 4 et 5, parole vivante. « Seigneur mon Dieu, montre-moi ton chemin. Enseigne-moi quelle est ta volonté. Fais-moi marcher selon ta vérité et instruis-moi, car c'est toi seul le Dieu de mon salut et je m'attends à toi chaque jour et à chaque heure. » Bien sûr, je dis que la chaise, c'est un lieu de réflexion. Et c'est vrai que bien souvent, des fois, on voit des personnes assises sur une chaise, on les voit dans leurs pensées. Vous avez déjà remarqué ça ? Peut-être l'avez-vous vécu vous-même. On s'assoit et voilà qu'on réfléchit, on pense. Ça, je ne dis pas que ça cogite, mais enfin, on est là dans notre réflexion. On veille un petit peu sur les temps d'aujourd'hui, sur ce qu'on doit faire, sur ce qu'on ne va pas faire. On réfléchit. Mais je crois qu'il est bon aussi de savoir réfléchir dans la présence du Seigneur. Ainsi, dans le psaume 119, versets 59-60, il est dit « Je réfléchis à mes voies et je ramène mes pas vers tes préceptes. » Donc, si je m'égare un peu, mais si je réfléchis, et avec la grâce de Dieu, je vais revenir dans le bon chemin. Et je me hâte, je ne diffère pas d'observer tes commandements. En fait, je pourrais dire au travers de ce verset, « Ma joie est grande de faire ta volonté. Fais-moi connaître ta volonté, mais pour connaître ta volonté, je dois plonger mon regard dans ta parole et être attentif à ce que ton esprit va me dire, comment me conduire. Alors Seigneur, je me hâte, je désire marcher ainsi, être instruit ainsi. » Et je réfléchis de manière à ne pas me tromper. Et avec ta grâce, tu vas me conduire dans la vérité. Et m'affermir dans cette vérité, parce qu'elle est bonne, agréable et parfaite, parce que c'est ta volonté. Et dans le psaume 1, verset 2, il est dit ceci, le proverbe, chapitre 16, verset 20, « Celui qui discerne, c'est-à-dire celui qui entend ou reconnaît la parole divine, trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. » Alors, je vais faire juste, entre guillemets, un petit rapport pour revenir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Je voudrais dire à ceux qui avaient l'idée peut-être de se marier. Et il est quand même écrit dans le proverbe que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Je dis ça comme ça, mais le plus grand bonheur, pas de trouver une femme, pas de trouver un mari, peut-être même de trouver un emploi, on trouve le bonheur, ça c'est sûr et certain. Le bonheur, c'est un bien grand mot, mais si je vous cite tous ces exemples, c'est pour vous dire que le véritable bonheur, et je vous ai cité le bonheur, celui qui discerne, entend, reconnaît, eh bien, la parole, l'écoute, trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. J'ai une question. Vous voulez que je vous la pose ? Êtes-vous parfaitement heureux ? Ne vous précipitez pas. Alors, j'ai la réponse. Humainement, parfois, c'est difficile. On est là, d'accord ? Mais spirituellement parlant, c'est vrai. Vous voyez, vous êtes tous d'accord. Je sais que vous avez les masques, et peut-être que je n'ai pas entendu, mais il me semble que vous avez tous dit amen, non ? Celui qui se confie en l'Éternel est heureux, celui qui lit la parole, qui l'écoute, qui la médite, il nage dans le bonheur. Autrement, c'est vrai qu'on ne le chante plus, hein. Mais il y a un petit cœur qui, puisqu'on ne le chante plus, mais il disait bien, je vais me rajeunir. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Point final, ça serait trop long. Mais on peut le réaliser encore aujourd'hui. Et puis, est-il écrit encore, psaume 1, verset 2, parole vivante, « Heureux, bienheureux, celui qui met sa joie, son bonheur, dans le livre du Seigneur, et s'imprègne de ce livre, et qui le médite nuit et jour, et jour et nuit. » Merci Seigneur pour ces paroles. Merci Seigneur de nous les rappeler. Merci Seigneur de nous rappeler qu'il ne faut pas trop rester devant la télé. Mais qu'est-ce qu'il dit, le frère ? Et mon feuilleton ? Tous les soirs, mon feuilleton ? Et après le feuilleton, je me couche. Et alors ? Ah ben, je m'endors. Et la prière ? Ah ben, je n'ai pas eu le temps. Faut que je récupère. J'ai l'impression que... Stéphane, je ne vais plus pouvoir venir. Mais est-ce que, quelque part, il n'y a pas une vérité ? Ce n'est pas un reproche. Loin de là, je ne vous reproche rien. Chacun sera conscient de ce qu'il fait, de ce qu'il dit. Mais chacun aussi doit prendre conscience qu'il doit mettre avant tout Dieu en premier dans sa vie. À la lecture de la Bible et à la prière. Souvenons-nous dans les temps lesquels nous vivons. C'est l'heure, bien que ce soit le cas et je parle dans le sens spirituel, c'est l'heure de nous réveiller et de revenir à la source vivante et puissante de la parole de Dieu et de la vie dans le Saint-Esprit. Que Dieu nous aide, que Dieu m'aide à cela. Et puis, il nous est dit dans Jean au chapitre 13, et je terminerai après avec le chandelier rapidement, dans Jean chapitre 16, versets 13 et 14, « Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il nous conduira, ou il vous conduira, dans toute la vérité. Car les paroles, ou ses paroles, ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu, et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. » Et là, à chaque temps que nous vivons, Dieu, au travers de sa parole et son esprit, nous annoncera ce que nous devons connaître. Tout en sachant que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et que ce que Dieu veut, on l'a dit, mais je le répète, ce n'est pas notre malheur, mais c'est notre bonheur. Alléluia. Et puis je termine par le chandelier. Et le chandelier, ça sert à quoi ? Merci. Mais en fait, avant tout, c'est qu'il apporte la lumière. On est bien d'accord ? Alors, nous savons que la lumière, c'est Jésus. Je suis la lumière. Et je vais vous le lire dans Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Moi, je suis la lumière. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura... la lumière de la vie. Mais Seigneur, merci, tu es la lumière. Mais où vais-je trouver la lumière que tu me parles, dont tu me parles ? Où elle est cette lumière ? Je suis conscient, je viens de le lire dans la Bible, tu es la lumière. Mais où elle est ? Je ne te vois pas, Seigneur. Tu n'es pas concrétisé par une flamme, comme par exemple une bougie sur laquelle j'allume la mèche. Là, je ne te vois pas. Oui, mais le Seigneur vous dira, si vous êtes conscient et sincère, il vous dira, tu veux ma lumière ? C'est ma parole. Car ta parole, ma parole, c'est la lumière. Et ma lumière t'éclairera. Et Christ vous éclairera au travers de la lumière, qui est sa parole. Amen. Vous savez, ça va peut-être un petit peu vous faire sourire, mais... ça remonte à quelques années. Il y avait un pasteur qui est allé, même un jeune pasteur, qui est allé visiter une dame d'un certain âge. Ne vous inquiétez pas, ce n'était pas dans la région. Alors, il est arrivé. Cette mémé ne pouvait plus trop aller à l'église. Et puis, au cours de la conversation, il va lui dire, « Mais mamie, est-ce que vous avez la Bible ?» Elle dit, « Oui, oui, j'ai la Bible. Oui, oui, est-ce que vous la lisez ?»« Oh, oui, oui. » Alors, Sa petite fille était là. Va me chercher la Bible. Tu sais que je mets entre les draps pour pas que ça s'abîme. Et puis, tu vas me la mener. Je vais la montrer au pasteur qui est là. Alors, elle va chercher. Elle arrive. Et puis, la Bible a été fermée. Et dès qu'elle la met sur ses genoux, la Bible, elle s'ouvre. Et au milieu, enfin, quand ça s'est ouverte, il y avait une paire de lunettes. Et la mamie, dans toute sa simplicité, ce n'est pas un reproche, elle va dire, ça fait 2 ans que je les cherche. Mais Dieu aimait la mamie. Ça lui a permis de réouvrir la parole. Vous voyez ? Je me souviens aussi de ce témoignage, et ça, c'était un peu imagé pour les enfants, ce qui disait ceci, que c'était le temps des vacances. Alors, c'était une famille chrétienne, ils disaient, on va partir, mais n'oublions pas la Bible. Et la Bible, elle s'est exprimée, elle a dit qu'elle... Merci. Elle a dit qu'elle était heureuse, la Bible. Enfin, on allait la mener en vacances et elle n'allait pas être oubliée, elle va être lue. Et puis, les vacances ont duré 15 jours. Et puis, tout le monde est remonté, la Bible aussi avec. Je disais ça un petit peu pour les jeunes qui sont au milieu de nous. Et puis, quand la Bible a été reposée sur la table de nuit, elle a dit, voilà, les vacances étaient bonnes pour eux. Mais pour moi, je suis resté fermé. On m'a oublié. Vous voyez, on se souvient parfois de la Bible quand tout va mal. Mais quand après on est occupé, quand on a des activités, quand on part en vacances, on peut oublier. N'oublions jamais la parole de Dieu. N'oublions pas de la lire. Ne la mettons pas de côté. Mais soyons des fervents lecteurs de la parole de Dieu. Et puis, ainsi, nous arrivons à la fin. Et je ne vous citerai pas tous les versets que j'ai notés, mais je vais certainement vous donner le verset de conclusion. Dans Éphésiens, au chapitre 5, versets 8 et 9, il est dit, « S'il fut un temps où vous aussi vous apparteniez entièrement aux ténèbres, à présent, par votre union avec le Seigneur, vous êtes devenus des êtres de lumière. Comportez-vous donc comme tels, répandant la clarté autour de vous. Les fruits que la lumière fait mûrir sont l'opposé des péchés énumérés. C'est tout ce qui est bon, juste et vrai, l'amabilité, la droiture de cœur, une scrupuleuse honnêteté et l'amour de la vérité. Bref, tout ce qui porte la marque de la lumière. Alléluia. Puissions-nous comprendre ensemble ces paroles que nous venons de lire et de citer. Puissions-nous être de bons chrétiens. Puissions-nous être des bons témoins. Puissions-nous répandre autour de nous, avec sa grâce, la bonne odeur de Jésus-Christ. Grandissons ensemble dans la foi et que Dieu nous donne de gagner des âmes à la gloire de son nom, par le témoignage que nous rendrons, qu'il soit parlé ou qu'il soit vécu par nos actes. Parce que nos actes, parfois, parlent plus que nos paroles. Et nos actes peuvent détruire, s'ils ne sont pas conduits par le Seigneur, peuvent détruire ce que nous semons par la parole. Oui ? Vous savez, je termine après. Vous pourriez dire, par exemple, à votre voisin de palier que Jésus-Christ est le même, qu'il est doux, qu'il est patient, qu'il ne se met pas en colère. Vous pourriez lui dire tout ça. Mais que le soir, vous, avec votre épouse ou avec votre mari, vous êtes en train de vous chamailler, de vous quereller, de crier, et que l'autre à côté entend, vous allez détruire ce que le matin vous avez semé. Et il vous dira, ce n'est pas la peine de parler de mon Dieu quand vous le verrez, de ton Dieu, parce que ce que tu as vécu, je l'ai entendu, et ça ne parle pas de ce que tu me dis. Voulons-nous gagner des âmes, ou voulons-nous les perdre par rapport à nos actes? Réfléchissons bien cela, et nous pourrons corriger nos actes que si nous vivons la parole. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous bénisse. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. parce qu'elle est la même, elle ne change pas. Elle est toujours vérité, elle est toujours force, elle est toujours puissante. Ta parole nous conduit dans la lumière et vers la lumière. Seigneur, qu'elle éclaire chaque jour nos vies, que nous puissions venir vers elle pour qu'elle prenne place en nos cœurs d'une manière définitive et qu'elle soit celle qui nous vivifie, qui nous réconforte, qui nous dirige, qui nous instruit, qui nous révèle, afin que nous soyons de bons enfants de Dieu, de bons chrétiens à la gloire de ton nom, afin que vraiment, par notre vie qui glorifie ton nom, d'autres puissent s'ajouter à l'Église de Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous dans ce service, car nous sommes tous appelés à être serviteurs et servantes, tous appelés à répandre le bon nom de Jésus, tous à resplendir comme une lumière vivante et étincelante, non pas une lumière qui va amener une fumée âcre, mais simplement une lumière éclatante pour éclairer le monde. Nous te le demandons au nom de Jésus, et nous te disons merci Père pour ton aide, pour ta parole qui est la vérité. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Eh bien, Dieu vous garde et vous bénisse. Moi, c'est que Stéphane, je te laisse la place.